Éphésiens au chapitre 2, vous allez bien? Tout va bien pour vous? Voilà. Alors, Éphésiens 2, verset 11, l'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens: « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois vous, païens dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Amen. Quel beau passage. Extraordinaire. Voilà, alors nous allons voir, bien sûr, l'œuvre que Jésus a accomplie, nous y reviendrons. Nous allons voir tout d'abord les murs qu'ont construit les hommes entre eux. Dans le monde entier, les hommes ont construit des murs pour se séparer les uns des autres, parce qu'ils n'étaient pas d'accord à propos du territoire, et donc ils ont construit un mur, parce qu'ils sont en opposition les uns avec les autres. Ils veulent protéger un territoire donné. Et voilà, des acquis de la guerre. Ils se sont battus pour leurs frontières. Ils ont érigé des murs pour dire « Stop, vous ne viendrez plus ici, parce que c'est chez nous ici. » Et les gens se séparent donc ainsi. Des peuples, des personnes se séparent. Parce qu'il y a des murs qui sont invisibles. Il y a des murs, on va parler des murs qui sont visibles. Mais il y a des murs qui sont aussi invisibles entre les personnes, entre les familles, à l'intérieur des familles. Et donc, entre les sociétés, entre des peuples, entre eux, etc. Les murs qui séparent les hommes. Nous allons voir quelques images à ce propos. Merci Géraldo de bien vouloir nous aider. Il est parti. Donc, merci en tout cas de... J'ai l'appareil. Est-ce que tu veux que j'essaye ? Pour voir si ça marche. On avait laissé ouvert. Je ne sais pas si ça ira bien, mais on verra. Hein. Ah oui, ça marche. Tiens, comment ça se fait? C'est moi qui fais ça? Ah oui, ça marche bien. Bon, à Belfast, en Irlande du Nord. Entre l'Irlande du Nord, ce sont les protestants historiques rattachés à la Grande-Bretagne. Hein, ce ne sont pas forcément des protestants nés de nouveau, hein, parce que bon, les haines... des aïeux, là, des grands-pères, grands-parents, oui, mais je me souviens que mon arrière-arrière-grand-parent, père, avait été tué par un catholique, et les catholiques, je me rappelle que mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand... Hein, et alors, voilà, je suis toujours en guerre avec toi, à cause de ça. Donc, ça n'a rien à voir avec des gens nés de nouveau, qui connaissent vraiment Dieu, c'est des chrétiens historiques, on va dire comme ça, hein. Entre l'Irlande du Nord protestant historique rattachée à la Grande-Bretagne et l'Irlande du Sud, pays indépendant et catholique, et donc il y a une séparation, vous voyez ici un mur qui existe donc à Belfast. Alors en Nicosie, à Chypre, entre les Turcs et les Grecs, vous savez qu'il y a toujours un problème, on veut rattacher la Turquie avec l'Europe, mais il y a un problème religieux, mais il y a un problème aussi avec Chypre. D'autres problèmes certainement, voilà. Chypre, l'île est divisée en deux. Et à Nicosie, il y a un mur entre, d'une part, les Turcs et d'autre part, les Grecs. Et c'est un problème. Ce mur subsiste. On ne peut pas passer. Hein, c'était une rue, on l'a barrée. On ne peut pas aller de l'autre côté de la rue. Non, c'est barré. C'est comme ça. Et si vous avez de la famille de l'autre côté, mais tant pis pour vous, vous leur écrirez une lettre, je ne sais pas très bien, mais il n'y a pas moyen de passer cette rue. En Corée, bien sûr, il y a deux Corées, hein, Corée du Sud, Corée du Nord. En Corée du Sud, c'est incroyable, ils ont presque rattrapé le Japon, et ils nous envahissent de leurs voitures, c'est fantastique, ils ont une technologie extraordinaire, et il y a énormément de personnes nées de nouveau en Corée du Sud. Hein. À Séoul, il existe la plus grande église au monde, l'église du pasteur David Yunkisho, plus ou moins 1 million de membres. Rien que cette église. Je ne sais pas combien de millions de chrétiens ils sont à Séoul. Et dans toute la Corée du Sud, c'est incroyable. Hein? Et donc, l'autre côté, c'est la Corée du Nord. Ils sont communistes. Ils ont la bombe atomique prête à mettre la bombe atomique sur leurs frères séparés du Sud. Hein? Ils sont pauvres. Et tout l'argent est concentré sur les armes. Et voilà, il y a entre les deux Corées un mur électrifié. Si vous essayez de passer par là, vous êtes électrifié à je sais plus 380 volts avec je ne sais pas combien d'ampères. Là, vous êtes c'est terminé. Donc, et qui essaie de passer à votre avis? Ceux du sud vers le nord ou ceux du nord vers le sud? À votre avis?
Ceux du nord.
Le nord vers le sud, hein, pas le contraire. Vous ne voulez pas aller dans un pays où c'est fermé, on a le droit de rien dire, de rien penser par rapport au pouvoir. Séparation entre les USA et le Mexique, entre le Mexique et les États-Unis, évidemment, c'est séparé. Pourquoi? Parce que, les États-Unis sont considérés comme un pays riche et le Mexique, il y a moins de richesse, quoique il y a quand même dans les super puissants du monde, les super riches, il y a un Mexicain qui est, je ne sais plus, à la deuxième place. Au Mexique, il y a des gens qui ont d'argent aussi, hein. Donc voilà, mais en tout cas c'est séparé entre les deux. En tout cas, il y a un mur de séparation au Maroc même. C'est une enclave de l'Espagne. Hein, et pas question qu'on aille au-delà de la délimitation. À Berlin, au temps des deux Allemagnes, évidemment, puisque maintenant c'est changé, il était abattu, mais the world's too small for walls. Hein. Le monde est trop petit pour mettre des murs qui empêchent les hommes de pouvoir être ensemble. Parce qu'il y a une partie qui a été perdue. J'aurais dû mettre la photo un peu plus petite pour voir tout. C'est pas grave. Voilà, mur séparant Israël de la Palestine. En Israël, bien, aussi, là, il y a un mur qui sépare tout le côté palestinien d'Israël. Israël a fait construire ce mur pour empêcher les Palestiniens de passer comme ils veulent. Il y a des postes frontières très encadrés où il reste, je pense, entre une demi-heure et une heure pour passer. Je sais pas, on les contrôle, on les fouille, on vérifie s'ils n'ont pas des armes, on vérifie s'il n'y aurait pas dans leur ceinture quelque chose, dans leur soulier ou quoi que ce soit. Donc tout est vérifié minutieusement. Et donc il y a un mur séparant Israël de la Palestine, même si c'est en raison de paix, c'est un mur qui sépare deux peuples. Séparation au Sahara occidental, même dans le désert, on sépare encore les gens. Vous voyez, il n'y a pas de limite, hein, à la séparation entre les gens. Des peuples et des hommes organisent leur vie autour de murs qui les séparent. Ces murs s'appellent ligne verte, ligne de la paix, barrière, grillage de protection, mur électrifié, clôture de sécurité, barrière de séparation. Derrière la trouvaille du mot, le mur reste cette expression de la protection de mon territoire opposé à l'autre voisin ignoré ou craint. C'est voir le livre d'Alexandra Novoselov. Voilà, donc ici c'est ce que nous avons vu et on va leur lire. Je crois que ça vaut la peine de découvrir. Qu'est-ce qui s'est passé en Jésus-Christ, hein? Les hommes se séparent, les hommes se sont divisés. Il y avait les juifs d'un côté, il y avait les païens de l'autre. Alors, vous savez, on va voir qu'est-ce qui désunissait ces deux peuples, enfin, les peuples et Israël. Souvenez-vous donc ceci, autrefois vous païens dans la chair traités d'incirconcis par ceux qui sont dits circoncis et qui le sont dans la chair et par la main des hommes Vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, c'est-à-dire nous païens qui ne connaissions pas Jésus et qui ne connaissions pas Dieu, celui qui avait donné les alliances à Israël. On ne parle pas de Jésus là à ce moment-là, mais qui avait donné Yahvé, qui avait donné ses alliances à son peuple. Vous étiez sans espérance, sans Dieu dans ce monde, mais maintenant en Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenu proche par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Donc il y avait une inimitié, un mur de séparation entre les païens et les juifs. Il y avait un mur qui les séparait. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour les réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. L'inimitié, c'est ce qui oppose, c'est ce qui divise, c'est ce qui empêche la réunion, l'unité. L'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Nous étions loin, ceux qui étaient proches, c'était les Juifs. Eh bien, il y a une paix pour les uns et pour les autres, car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons accès auprès du Père par un même esprit. Il nous a donné le même esprit, l'esprit que Paul a reçu. Pierre, Jean et les autres apôtres ont reçu l'Esprit Saint et nous avons reçu le même Esprit. C'est le même Esprit, exactement le même Esprit. Donc juifs et non-juifs reçoivent le même Esprit pour former un seul corps. Nous avons reçu la même paix qui nous réunit les uns avec les autres. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Il n'y a plus qu'une famille. Un seul peuple, un seul corps. Jésus est la tête et nous faisons partie de son corps avec toutes les églises du monde entier, juifs et non-juifs. Et nous avons déjà invité, nous réinviterons dans le futur des messianiques, des chrétiens messianiques. Hein. Il y en a à La Louvière, à Bruxelles et à Lyon, et dans le monde entier, des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur comme nous, hein, même s'ils pratiquent les fêtes juives. Ils n'en demeurent pas moins nos frères et nos sœurs. Et nous les aimons beaucoup. Hein, nous voulons vraiment leur montrer notre amour. Alors, il y a une inimitié entre juifs et païens. Et oui, il y a du mépris des païens avec des juifs. Ici, je me suis trompé. Mépris des juifs. Ce n'est pas païens, mais juifs avec orgueil concernant les païens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont reçu les alliances. Ils ont reçu les promesses de Dieu. Ils ont reçu les oracles de Dieu. Et donc, ils se sentent un peu supérieurs. Ils ont reçu vraiment la primeur. C'est eux, le peuple choisi par Dieu. C'est Israël. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a persécutés autant. Parce qu'ils sont toujours restés fidèles à leur religion, et à leur croyance, à leur fête, à leur cérémonie. Ils sont toujours rester fidèle. Donc mépris des juifs et non pas des païens, avec orgueil contre les païens. Et de l'autre côté, il y avait de la moquerie des païens sur la religion des juifs. Les païens se moquaient des juifs à propos de leur circoncision, de leur cérémonie, etc. Et vous savez qu'on a persécuté les juifs depuis longtemps, hein, du temps de la reine Esther. Tous les juifs en déportation auraient pu être tués au temps d'Esther. Vous me suivez? Vous êtes là? Alors pendant le Moyen-Âge, 500 000 juifs ont été tués, et donc une persécution terrible. On persécutait les sorcières. Les sorcières, c'était celles qui utilisaient des herbes médicinales pour soigner les gens. Alors on les taxait de sorcières, on les brûlait sur les bûchers. Les juifs aussi, tout ce qui était juif, hop, allez, hop, sur le bûcher. Tous ceux qui nous apportent des maladies, parce qu'il y avait eu la peste noire, vous vous rappelez, au Moyen-Âge. Et donc, dû à cette peste noire, on a établi que c'était à cause des juifs. C'est à cause d'eux. C'est eux qui nous conduisent à voir ça. Donc on a jugé les juifs, et voilà, c'est eux. Bouc émissaire, hop. Ils ont été tués là-dessus. Donc 500 000. Et puis, à la guerre 40-45, combien de millions de juifs ont été tués? Entre 5 et 6 millions, pour ne pas se tromper. Et donc, pourquoi? Parce que Adolf Hitler et tous la philosophie qui existait déjà avant Hitler, hein, il y avait déjà des philosophes qui avaient pensé de cette manière-là, d'une manière très raciste, et avaient voilà, dit que les Juifs, c'était vraiment la misère de nos peuples, c'est à cause d'eux que hein, tous les problèmes, le manque de travail, la difficulté sociale, etc. Tous les problèmes leur étaient remis sur le dos. Et donc, bien sûr, ça crée quelque chose de terrible. Et ce n'est pas vrai, bien entendu. Jésus a construit un pont entre Dieu et les hommes et entre juifs et païens. Voilà, ce que Jésus a fait, c'est un pont. Il a détruit le mur, mais il a rassemblé Dieu avec son Père. Il a réuni, c'est la croix, hein? La croix c'est la relation avec Dieu et nous, hein? Et la relation entre nous, hein? Il a fait une paix entre nous et son Père. Par la mort de la croix, une paix nous a été donnée, une paix. Nous sommes en paix avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix qui nous purifie de tout péché. Et Dieu a en horreur le péché. Il y a une horreur dans le cœur de Dieu. Il ne dit pas, oh non, c'est pas grave, je vais essayer de trouver pourquoi. Oui, tu as péché, parce que si, parce que là, alors tu peux te pardonner sans demander pardon, parce qu'on comprend pourquoi. Mais non, tu es pécheur et le péché n'entrera pas au ciel. Il n'y a aucun péché qui n'entrera au ciel. Il y a eu un prix qui a été payé. C'est Jésus sur la croix. Il n'y a pas d'alibi. Nous sommes tous déclarés pécheurs. Nous sommes tous dans le même sac. Et Jésus est mort pour nous. Pour les juifs et pour les non-juifs. On le voit dans Romains chapitre 1, pour les non-juifs. Et on voit aussi pour les juifs au Romains 2. Nous sommes tous dans le même sac. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3. Hein? Je crois que c'est important de réaliser cela. Jésus a construit donc un pont entre Dieu et les hommes et entre les juifs et les païens pour les réunir, pour former un seul peuple, pour qu'on soit en paix, qu'on vive en paix les uns avec les autres. Et c'est tellement important. L'évangile est donc accessible à tous par la même foi. Par la même foi, dans le même Seigneur, dans le même Sauveur, Christ a fait la paix. Une paix parfaite, entre Dieu et nous, une paix parfaite entre nous et les hommes, si on se réconcilie. Lui, il a acquis cette réconciliation. Nous aussi, nous devons passer par cette réconciliation et réaliser que son sacrifice nous invite à nous réconcilier avec Dieu et nous réconcilier avec notre prochain. C'est très important. Il a fait la paix par son sang, par sa chair, par sa croix. Par son sang, il l'est dit, hein, versets 14, 15 et 16, « Car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié, il a, dans sa chair, annulé la loi. Hein, » c'est par son sang, hein, verset 13, « Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. » C'est par le sang de Christ que nous avons été rapprochés. Et c'est au travers de sa chair qu'il a annulé la loi avec ses commandements et les dispositions qui nous étaient contraires. La loi nous condamnait. Mais lui, il a obéi parfaitement à la loi. Il est mort et il est ressuscité parce qu'il a accompli parfaitement. Il a pris nos péchés qui étaient en opposition aux lois de Dieu. Et si nous croyons en lui, nous recevons la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Lui a accompli la loi à notre place, de manière parfaite. Et par sa croix, c'est par sa croix hein, que nous avons, donc verset 16, « Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix. » C'est par sa croix qu'il réconcilie les juifs et les non-juifs en un seul corps. Les deux frères, alors j'aimerais bien qu'on mette l'autre PowerPoint, si tu veux bien, Géraldo. C'est important, Dieu veut que nous puissions réaliser... vraiment les uns avec les autres. Pensez aux gens avec qui vous n'êtes pas en paix. Avec qui est-ce que je ne suis pas en paix? Est-ce qu'il y a une personne au monde avec laquelle je ne suis pas en paix? Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec les autres? C'est une question. Le pont. Voilà. Donc, voici l'histoire de deux frères qui s'aimaient beaucoup et vivaient en parfaite harmonie dans leur ferme jusqu'au jour où un conflit éclata entre eux, comme toujours. Hein. Ça va bien jusqu'au moment où ça ne va plus aussi bien qu'au départ. Ouais, il y a un conflit, évidemment, et il faut le résoudre, c'est ça le problème. Tout commença par un malheureux malentendu, une toute petite chose en fait, mais qui peu à peu s'amplifia jusqu'à interdire, hélas, toute communication entre eux. C'est ce qui se passe souvent. D'une petite chose qui se passe entre deux êtres, se passe une séparation, une coupure, et il n'y a personne qui fait le premier pas pour se réconcilier, et donc, bien sûr, on va en rester là, tant qu'on ne change pas. Fort heureusement, un matin, un homme qui cherchait du travail frappa à la porte de Louis, le frère aîné. Un homme à tout faire. Louis l'accueillit et lui dit « Oui, j'ai du travail pour toi. Tu vois, de l'autre côté du ruisseau, vit mon frère. Il y a quelques semaines, il m'a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux me venger. J'aimerais que tu construises avec ces pierres un grand mur, car je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. » L'homme répondit « Je crois que je comprends la situation. » Louis partit en voyage et laissa l'homme à son travail. Lorsque quelques jours plus tard, Louis revint, l'homme avait fini sa construction. Louis fut surpris, totalement bouleversé. Pourquoi était-il surpris? Au lieu d'un mur immense, l'homme avait construit un pont. Précisément, en ce moment, le frère de Louis sortit de sa maison et courut vers lui en s'exclamant « Louis, tu es vraiment formidable. Construire un pont après ce que je t'ai fait, je suis fier de toi. » Pendant que les deux frères fêtaient leur réconciliation, l'homme ramassa ses outils pour partir. « Non, attends, lui dirent-ils, nous avons du travail pour toi. » Mais il répondit « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore d'autres ponts à construire. » Ne construisons jamais de murs de séparation, soyons des constructeurs de ponts entre les hommes. Soyons des constructeurs de ponts pour les hommes. Soyons des hommes et des femmes qui unissent et réconcilient. Que Dieu vous bénisse pour tous les ponts que vous construirez. C'est important. Ceci nous montre combien c'est important. Non pas d'ériger des murs entre nous, des murs qui séparent, mais de construire des ponts. Soyons des constructeurs de ponts. Hein? Je crois que c'est important. Alors José va se mettre à construire des ponts maintenant. Il va arrêter de construire des murs. Comment? C'est parce que tu es maçon. Il faut qu'ils construisent des murs, c'est important. Parce qu'on ne fait pas une maison avec des ponts, à moins que ceux qui construisent des maisons. Anciennement, on faisait des maisons des fois sur le pont. C'est pas évident, ça. On ne fait plus ça, je pense. On fait moins. Je ne sais pas si ça existe encore. Mais ça existait dans le passé. Voilà. Alors, c'est tellement important de réaliser cela. C'est tellement important. Soyons vraiment des personnes qui construisons des ponts. Construisons des ponts les uns avec les autres. Lao Tseu a dit ceci, « L'homme n'est pas fait pour construire des murs, mais pour construire des ponts. » Joseph Fort Newton disait, « Les gens se sentent seuls. » parce qu'ils construisent des murs au lieu de ponts. Et Bénédicte Tranjek disait « Les ponts font la liaison entre les hommes et favorisent les échanges, tandis que les murs marquent une distanciation volontaire et impose la notion de seuil et de droit d'entrée dans un lieu approprié privé. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'expressions, jeter un pont, faire le pont, couper les ponts. Hein, il y a toutes ces expressions-là. Nous devons vraiment réaliser que Jésus a créé un pont entre son Père et nous. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. C'est lui qui a fait un pont entre nous, un pont entre les hommes, entre eux. Et c'est important pour nous de réaliser, si on pourrait reprendre l'autre diaporama, si tu veux bien, et reprendre Philippiens. Je vous invite à aller voir dans Philippiens, chapitre 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voilà, donc, s'il y a donc de l'encouragement en Christ, dit l'apôtre Paul, s'il y a de la consolation dans l'amour, une communion de l'esprit, eh bien, ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Voilà ce que Dieu veut, c'est que nous soyons un. Mais pour être un, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut être un avec Dieu. Si on n'est pas un avec Dieu, c'est impossible d'être un avec les autres. Un juif qui n'est pas un avec Dieu, qui n'est pas d'accord avec la vérité, il ne peut pas être un avec nous, par exemple. N'importe lequel des hommes, d'ailleurs. Hein. Je parle de juifs, je parle d'êtres humains en général. Si nous ne sommes pas un avec Dieu, il est impossible d'être vraiment un spirituellement parlant avec les autres, avec ceux qui connaissent Dieu, ceux qui sont en relation avec Dieu, qui ont une véritable communion avec Dieu. Pour être un avec ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, d'un amour inaltérable, il faut aussi avoir fait la paix avec Dieu. Il faut être passé par Jésus. Il faut avoir reçu Jésus dans sa vie. Il faut avoir reçu la paix de Dieu. Il faut avoir reçu le pardon de Dieu, la marque de Dieu, l'Esprit de Dieu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on ne lui appartient pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Être enfant de chrétien ne suffit pas. Il faut une expérience. Il faut passer par l'expérience de la croix. Si vous ne connaissez pas Dieu de cette manière, vous ne pourrez pas être un véritable frère, une véritable sœur. Un véritable frère, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui a laissé Dieu pénétrer ses pensées, sonder son cœur, qui a donné tout péché au Seigneur, qui lui a laissé sa vie entière. Jésus est devenu non seulement son sauveur qui pardonne ses péchés, mais son Seigneur qui dirige sa vie. Et beaucoup ne veulent pas accepter d'être dirigés par quelqu'un d'autre que par eux-mêmes. Beaucoup de personnes disent « Moi, je suis mon maître et c'est moi qui me dirige et personne ne me dirigera d'autre. C'est moi qui sais ce que je vais faire et Dieu n'a rien à voir là-dedans, c'est moi qui dirige. » Eh bien, ceux-là ne sont pas authentiquement des frères et des sœurs. Il y a quand même un problème énorme. Celui qui fait sa volonté n'accomplit pas celle de Dieu. Et si nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, eh bien, la porte du ciel, je ne pense pas qu'elle sera largement ouverte. Nous avons comme principe de la parole, c'est d'obéir à Dieu. Et ce n'est pas obéir à Dieu en disant « Oui, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. » Et voilà, mais je continue ma vie comme je faisais avant. Non, ce n'est pas possible. Si Jésus est votre Sauveur, il doit aussi devenir votre Seigneur, votre Maître, celui qui dirige toutes choses. Donc il y a une paix à avoir avec Dieu. À recevoir par la foi la promesse de la vie éternelle. Hein? Je te sauverai, toi et toute ta famille, mais il faut encore que chacun de ma famille croie au Seigneur et reçoive par la foi la promesse. Chacun doit se saisir de la promesse. Sinon, le salut n'est pas effectif. Ce n'est pas une promesse, dans le cloud. Promesse dans le cloud. Nuage. promesse quoi, je ne sais pas. Il faut quand même que la promesse devienne réalité à un moment donné. D'accord ? C'est quelque chose d'important. Soyons des personnes qui unissons avec les frères. C'est important. Soyons unis avec nos frères et nos sœurs. C'est important de conserver l'unité dans le corps de Christ par le lien de la paix. C'est par le lien de la paix. Hein? Et on va aller dans Éphésiens 4, si vous voulez bien. Éphésiens 4, qu'est-ce qu'il dit, Éphésiens 4 ? Éphésiens, chapitre 4. Voilà, verset 3. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit » par le lien de la paix. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Donc, ce n'est pas simplement « je suis sauvé, donc je suis uni avec les autres, frères et sœurs ». Mais non, il y a une question de s'efforcer. Quand je lis la parole le matin, j'ai facile ? Quand je me lève plus tôt pour prier, est-ce que j'ai facile ? Quand je cherche à faire la volonté de Dieu instant après instant, est-ce que c'est facile ? Il n'y a rien de facile là-dedans. Mais avec l'aide de Dieu, c'est possible. Mais c'est difficile. La vie que Dieu nous propose n'est pas facile. Être un disciple, c'est quelqu'un qui vit instant après instant dans la présence de Dieu, qui cherche en tout cas à faire sa volonté instant après instant. Et c'est difficile, non ? C'est plus facile de se reposer, de regarder la télé, de regarder un bon film, non ? C'est plus facile de ne rien faire. C'est plus facile d'être naturel. Je me lève désagréable après une nuit cauchemaresque et je suis de mauvais poil sur les autres. C'est plus facile que de plier le genou devant Dieu et de dire « Seigneur, aide-moi parce que ça risque de mal se passer si tu ne m'aides pas. Viens à mon secours, je suis faible, mais par ta puissance, je peux arriver à vivre cette vie et cette journée avec ta grâce, avec ton aide. » Et je ne suis pas engagé avec Dieu à vivre une vie naturelle. La vie naturelle va être désagréable parce que l'ennemi de nos âmes ne va pas nous rater. On va avoir des bâtons dans les roues. Nous allons être chahutés, je vais dire. Nous allons avoir des problèmes, des difficultés. Alors, pour cela, nous devons être des disciples. Nous devons être des chrétiens consentants, des chrétiens qui consentent à l'obéissance. L'obéissance de la foi qui nous conduit à être unis avec Dieu dans l'épreuve, dans les difficultés comme dans les moments qui sont bons. Et nous prions pour les autres chrétiens, frères et sœurs, parce qu'ils ont les mêmes combats, les mêmes difficultés. C'est plus facile de ne pas prier, évidemment. Si je ne prie pas, je fais juste ce que j'ai besoin de faire et personne ne le sait de toute façon. Il n'y a que Dieu qui voit les choses. C'est plus facile. C'est naturel, je ne prie pas, je ne lis pas la Bible et je suis naturel. Mais il n'y a rien qui m'unit là-dedans avec les autres frères et sœurs. Si je prie, je m'engage à vivre une vie correcte avec le Seigneur, à vivre par l'Esprit, à vivre ce que Dieu désire. Et Dieu désire de faire des grandes choses. Et il y a toujours des défis devant nous. C'est difficile. Regardez Josué. Josué, il devait faire la guerre à ces nations qui étaient en Canaan. Par ses propres forces, est-ce qu'il aurait pu gagner, vous croyez ? C'était peine perdue. Est-ce que Gédéon, est-ce qu'il pouvait gagner ce genre de combat ? Sincèrement, soyez honnête. Est-ce que Gédéon pouvait gagner ? contre 135 000. Ils étaient 32 000. Est-ce qu'ils pouvaient gagner? Ils étaient battus à plate couture, d'avance, c'était fait, leur sort était réglé, même avant. Est-ce que David avait... c'était facile pour lui. Est-ce que David a eu facile avant de devenir roi, par rapport à Saül? Mais il était persécuté de manière incroyable par Saül, qui voulait sa perte. Et il lui a lancé sa lance à plusieurs reprises. Il a voulu le tuer d'une manière ou d'une autre. Il a envoyé son armée contre David. Et David disait que je suis comme une puce, on cherche à m'écraser. Il était obligé de fuir, même chez les ennemis d'Israël. Et faire le fou devant le roi parce qu'on s'était aperçu que c'était David qui avait tué Goliath. Et là, il s'est retrouvé mal avec les ennemis entouré des princes philistins. Il aurait pu passer un sale quart d'heure. Il a fait le fou. On a dit, un prince a dit, il n'y a pas déjà assez de fous ici. Hein, allez, mettez-moi celui-là dehors. Et bon, il s'en est sorti encore cette fois-là. Mais il a eu des problèmes toute sa vie parce qu'il y a eu les autres nations qui ont voulu envahir Israël, détruire Israël, rayer de la carte Israël. Et il a dû combattre avec la force de Dieu. Il a dû demander l'intervention du Seigneur dans sa vie. C'était pas possible avec ses forces d'en sortir. Il était réduit à l'impuissance avec ses forces. Impossible. Et vous n'avez pas le droit de dire, pour moi, c'est impossible. Je suis devant des défis trop grands pour moi, donc je retombe dans mes péchés, je retombe dans le mal, parce que moi, je ne sais pas y arriver, je ne peux pas. Et vous croyez que ça marche devant Dieu, ça? Non, parce que Dieu nous a donné la force. Dieu nous donne les solutions. Dieu nous donne les solutions humainement. Alors je dois être en paix avec moi-même. Je dois être uni avec moi-même. Il y a des gens qui confessent la parole de Dieu, mais qui vivent le contraire. Est-ce que ça marche? Ça crée... Il y a une désunion entre ce que je pense, qui est juste, et ce que je vis. Il y a une forme d'hypocrisie. Mais si ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la confusion. C'est de l'incrédulité. C'est des choses qui ne sont pas en règle par rapport à Dieu. Il y a des choses qui, à l'intérieur, ne sont pas unies. Dieu veut que nous soyons un. Lui, il est un. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de division. Le Père, le Fils ne s'est jamais écarté de son Père en disant « j'ai plus besoin d'être avec toi, hein, tu m'énerves aujourd'hui ». Non, le Père et le Fils sont unis dans un même amour. Il n'y a pas de division en Dieu. Aucune division, il n'y a jamais de division. Dieu est en paix avec lui-même. Dieu est en harmonie, Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas de division. Simplement, le jour où Jésus a pris le poids de nos péchés, le Père a dû se détourner du Fils à cause du péché qui venait sur la vie du Fils. Oui, là, c'est vrai que Jésus s'est écrit à ce moment-là, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le seul moment de séparation, d'accord ? À cause de notre péché, hein ? Ce n'est pas à cause de son péché, ce n'est pas lui qui a fait une faute, hein ? C'est nos péchés qu'il a pris sur la croix. Et à cause de ça, il a été séparé de son Père pour que nous soyons plus jamais éloignés de notre Père. Maintenant, nous avons le moyen, c'est Jésus qui nous réunit à son Père. Et nous avons le moyen d'être unis avec nos frères et nos sœurs. Mais il faut voir à l'intérieur de nos cœurs qu'est-ce qui divise. Si je suis divisé, qu'est-ce que j'apporte aux autres? Si je suis divisé avec moi-même, si, oui, j'ai des belles paroles parce que je crois en l'Évangile, mais je suis autre à l'intérieur, qu'est-ce que ça apporte, à votre avis? Si nous venons en être divisés, et qu'on se rassemble avec les autres, qu'est-ce que nous créons? Si nous sommes divisés avec nous-mêmes, je peux vous assurer que nous apporterons la division. L'Église n'est pas bénie. Nous ne pouvons pas être bénis. Si nous vivons à l'intérieur de nos vies de la division, si nous sommes divisés entre ce que nous croyons et ce que nous sommes réellement, nous apportons de la division. Nous apportons de la confusion. Nous sommes confus, divisés. Et nous ne pouvons pas être unis avec les autres. C'est impossible. Si nous ne sommes pas unis en nous-mêmes, nous ne pouvons pas bénir les autres. Et nous ne pouvons pas être vraiment unis. Donc ça dépend, l'unité dépend de cette unité que nous avons en nous-mêmes aussi. Et cette unité que nous avons en nous-mêmes dépend de l'unité que nous avons avec Dieu. On revient aux mêmes choses. Est-ce que nous avons la foi qui sauve? Est-ce que nous nous sommes repentis réellement pour chacune de nos fautes? C'est plus facile de dire, Seigneur, pardonne-moi, la multitude de fautes que j'ai faites, allez, hop, au revoir. Plus facile, hein? Mais de laisser l'Esprit Saint sonder nos cœurs au point que chaque péché est remis à la surface et que chaque péché est déposé devant le trône de grâce pour que Dieu nous en purifie, que Dieu guérisse nos souvenirs blessés, brisés. Nous avons eu tous des cœurs blessés, tous des cœurs en problème, en souffrance. Jésus, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Ésaïe 61, verset 1 et verset 2, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais nous avons la responsabilité de nous faire soigner. Il y a quelques années, je l'aimais bien, c'est de la famille, il n'a pas voulu aller voir le médecin. Et quand il allait uriner, c'était du sang. Mais il n'a pas voulu. Ça va aller, pas besoin d'aller voir le médecin. Ça va aller. C'est un cancer. Cancer qui a été généralisé. Et il est mort. Bien sûr, heureusement, on lui a parlé du Seigneur. Et à la fin de sa vie, vraiment, parce qu'il avait plus que la ferme qui comptait, toutes ses entreprises et tout ce qu'il faisait. Il travaillait même la nuit. Mais là, il a été arrêté. Dieu l'a arrêté. Bon, maintenant, tu réfléchis à ta vie. Il a dû se reprendre. On lui a parlé. Des uns et des autres. Moi, je lui ai parlé et d'autres personnes lui ont parlé, il n'y a pas que moi. Et il a pu se remettre avec Dieu. Il avait beaucoup de doutes dans son cœur. Hein. Il doutait de l'existence de Dieu, il doutait de ce que Dieu était bon. Il avait tellement de doutes. Mais dans ces doutes, il s'est quand même placé devant Dieu. Et il a reçu le Seigneur, le Sauveur. Il a reçu Jésus dans son cœur. Et maintenant, il est au ciel. Mais ce que je veux dire, c'est que quelquefois, on est malade, mais on ne veut pas accepter. On ne veut pas accepter d'aller voir le médecin. On ne veut pas aller voir le médecin divin. Hein? Ce n'est pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, disait Jésus. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Hein? Et il disait ça après quoi? Après avoir parlé du salut à Zachée. Il avait besoin de salut, il n'avait pas besoin de médecin pour son corps, lui. Mais il parlait de cela aussi, Jésus. Et Zachée a reçu Jésus ce jour-là. Et il s'est mis en ordre. Il y a une vie en ordre. Il y avait du désordre dans sa vie. C'est ça le manque d'unité, c'est le désordre. Le désordre dans nos cœurs crée un manque d'unité, évidemment. Et Zachée s'est remis en ordre. Il a rendu quatre fois la somme à qui il avait volé quelque chose. Et il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. C'est mieux que l'homme riche, hein, le jeune homme riche, qui avait tout gardé pour lui. Et ça, c'était la seule chose qu'il devait faire pour atteindre le royaume de Dieu. Il pratiquait déjà tous les commandements, mais il y avait une idole là, qui cachait bien. Ça, c'est la cachée. Mais Jésus, le point de paf, c'est ça. Ah, zut. Waouh. Il ne fallait pas dire ça. Ce n'est pas ça que je voulais entendre. Ah ouais, tant pis. C'est pas ça que tu voulais entendre, mais c'est ce que Jésus sait. Il n'y a rien à faire. Dieu veut que nous soyons unis en nous-mêmes afin de pouvoir être unis avec les autres. Il est impossible d'être unis avec les autres si nous ne sommes pas unis avec Dieu. Et si nous ne sommes pas unis avec Dieu, c'est normal que nous soyons dans la confusion. C'est normal que nous doutions, que nous soyons incrédules. Nous n'avons pas encore fait le pas. Il manque ce pas vers Dieu, cette réconciliation, cette repentance par rapport à l'incrédulité, à tout ce qui a causé le désarroi dans nos vies. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Isaac Newton. Jésus a établi un pont entre son Père et nous. Pas le pontife, hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Mais Jésus, c'est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Seul médiateur. Alors nous allons incliner nos têtes et lui demander de parler à nos vies.